Fidèles auditeurs du studio Tamani, bonjour, bonsoir selon vos localisations actuelles. Dans ce studio, il fait exactement 17h. Installez-vous bien, c'est parti pour votre émission humanitaire hebdomadaire Fabou Dirène. Et ce soir, il sera question de la situation sanitaire et l'hygiène menstruelle des femmes sur les sites déplacés. Comment les femmes sur les sites déplacés doivent-elles gérer la période des menstrues? Est-ce qu'un mauvais entretien durant cette période a des conséquences sur la santé? Comment se passe la prise en charge des femmes enceintes sur les sites déplacés? Tant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre invité du jour, M. Brahima Balo, chargé de programme de l'ONG AMSOPT, l'association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles. À la présentation, je suis Adama Amadou Haïdara, la technique Philly Dambélé. Bienvenue à tous. Comme annoncé à l'entame de cette émission, nous allons parler de l'hygiène menstruelle, qui est l'ensemble des pratiques et des mesures adoptées pour gérer les menstruations d'une manière sûre et hygiénique. Au Mali, beaucoup de femmes gèrent difficilement leur hygiène menstruelle, cela par manque de moyens, d'informations ou d'espaces sécurisés selon des ONG. Et parmi ces femmes vulnérables, on note les femmes déplacées internes et les réfugiés. Pour préserver leur hygiène intime, des organisations humanitaires leur offrent des kits de dignité. Mariam Koulibaly nous amène dans leur univers.
La promotion de la santé sexuelle donne à la femme toute sa dignité, selon Brahima Balo, le président de l'Association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles AMSOPT, considère que les menstrues perturbent souvent les activités sociales et économiques de certaines femmes.
L'entretien du corps pendant cette période-là est vraiment fondamental pour une bonne santé sexuelle et une bonne santé de la reproduction. La santé de la reproduction est un droit humain et de facto, l'hygiène menstruelle devient un droit humain puisqu'il nous a été donné de constater qu'il y a beaucoup de femmes qui voient les règles comme une honte, donc qui voient leur activité quotidienne perturbée par la survenue des règles. Et certaines femmes n'ont même pas, même si elles veulent, elles n'ont pas les moyens de pouvoir apporter cette propriété à leur corps. Nous intervenons dans le cadre de la sensibilisation d'abord. Nous avions un programme qui s'occupe de ces femmes déplacées internes sur les sites de Faladje et sur les sites de Mopti à Sévaré. Pendant la mise en œuvre de ce projet, non seulement nous avons offert des vivres à ces femmes, des non-vivres, nous avons apporté des serviettes hygiéniques, des seaux, du savon, de l'eau de Javel pour assister ces femmes en matière d'hygiène menstruelle. Le manque de moyens aidants, la faible capacité d'avoir accès à de l'eau pour se rendre propre. Donc, tous ces facteurs-là nous ont amenés à nous intéresser à ces femmes-là.
Kadia Togo, superviseur au sein de l'ONG AMSOPT à Mopti, corrobore les propos de M. Balo. Sur place, des kits de dignité, mais aussi des serviettes hygiéniques lavables ont été mises à la disposition des personnes vulnérables.
Dans l'institut de Sarema, à Mopti, précisément à Sévaré, la sensibilisation portait sur la bonne hygiène menstruelle, l'utilisation et l'utilité de ces kits menstruels. Les difficultés rencontrées lors de nos sensibilisations étaient de la méfiance. Comme c'était toute leur première fois d'attendre ça, il y avait de la méfiance. Du côté financement, bon, les paquets n'étaient pas aussi que ça, mais on a fait avec le moyen de bord.
L'ONG AMSS essaie d'améliorer l'accès à des produits menstruels abordables aux jeunes filles et femmes déplacées du cercle de Bankas. Ces 10 volontaires font aussi des causeries débats sur le sujet 2 fois par semaine. Aoussatou Yaro, spécialiste des VBG au compte de l'ONG.
Les acquis de nos campagnes, on a fait des distributions de coupes menstruelles à certaines femmes déplacées ou non déplacées, surtout les filles. On a aussi fait la distribution des kits GHM. Au niveau des établissements scolaires, on a fait l'installation sanitaire dans certains établissements scolaires aussi. Maintenant, on a 10 volontaires qui véhiculent les messages qui font des sensibilisations sur l'hygiène menstruelle et autres.
Sur l'espace aménagé pour les déplacés à Faladje à Bamako, les femmes affirment qu'elles ont effectivement reçu de l'aide dans ce sens. Mais le besoin reste toujours croissant. En plus, La venue des menstrues handicape également les activités génératrices de revenus de certaines femmes déplacées internes.
Nous avons reçu de l'aide de la part de la Croix-Rouge et de l'ONG Solidarité. Ces dons étaient composés de protège-slip, de lingerie et du savon. Beaucoup de femmes l'ont reçu.
Toutes les femmes n'ont pas été servies. Quand les règles surviennent, certaines ne peuvent plus faire leurs tâches durant une ou plusieurs semaines. D'autres viennent demander de l'aide quand elles n'ont pas les moyens de souffrir des kits d'hygiène.
Une aide doit être fournie aux ménages ou personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des kits d'hygiène intime. Mais, selon Brima Balo, beaucoup d'ONG sont aussi limitées.
Parfois, nous ne sommes pas compris. Surtout certains hommes qui ne voient pas ça d'un bon oeil. Nous avons su adapter notre communication tant aux hommes qu'aux femmes. Donc, nous les expliquons les bien fondés de notre intervention et nous exhortons même les hommes à participer aux causeries éducatives concernant l'hygiène menstruelle. Ces difficultés ont été levées. L'autre difficulté également, c'est que nous avons des moyens parfois limités. On a parfois du mal à renouveler les stocks et pourtant, les besoins pour ces femmes-là est vraiment là.
L'hygiène intime touche à la dignité de la femme. Elles doivent pouvoir se procurer des produits sanitaires, d'aller à l'école ou de travailler sans gêne.
Nous revenons dans ce studio pour retrouver notre invité, M. Brahima Balo. Bonsoir, M. Balo, et merci d'accepter notre invitation.
Bonsoir, Sidiou Tamani.
Avant d'entamer avec les questions, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des activités de AMSOT?
Merci. AMSOT travaille dans le domaine des violences basées sur les genres. Nous avons beaucoup, AMSOT est connu pour son engagement en faveur de l'abandon de la pratique de l'excision, des mariages d'enfants et de toutes les autres formes de violence basées sur les genres. On travaille dans le domaine de la santé de la reproduction, dans le cadre du plaidoyer, la mobilisation communautaire en faveur de l'abandon des VBG et des droits des femmes et des enfants.
D'accord. Et pour revenir à l'élément qui vient juste de passer, la santé de la reproduction est un droit humain. Vous l'avez vous-même dit dans l'élément. Alors, est-ce qu'il y a des femmes, particulièrement sur les sites déplacés, qui sont privées de ce droit?
Bien évidemment. Je rappelle que les femmes déplacées internes ne sont pas dans ces sites-là parce qu'elles veulent. Eu égard au contexte de notre pays, ces femmes ont été forcées à se déplacer. Donc, ils se sont retrouvés par la force des choses. Sur ces sites-là, parfois les bras nus. Rien du tout. Donc, ce sont des femmes qui vivent dans une situation socio-économique vraiment très précaire. Et nous savons que l'hygiène menstruelle a un coût. Le coût des serviettes hygiéniques, le coût du savon, le coût de l'eau. Et sur cet espace, l'eau potable, je ne dis pas que c'est rare. Mais l'accès est assez difficile. Donc, considérant toutes ces situations, beaucoup de femmes en âge de procréer se trouvent privées de ce droit-là.
D'accord. Mais et comment les femmes doivent gérer cette période des menstrues?
Cette période des menstrues, donc, c'est une période spéciale et intime pour la femme. Donc, il y a des attitudes et des comportements qu'il faut adopter pour se rendre propre. Et également, avoir un environnement au niveau de la famille pour gérer les outils qui contribuent à cette hygiène-là, menstruelle. Donc, les femmes ont besoin d'être assistées, des fois, parce qu'elles n'ont pas les moyens. L'environnement fait que tout ce dont elle a besoin n'est pas disponible. Donc, elles ont besoin de se faire assister et parfois même des conseils. Je prends un exemple. Une femme qui utilise d'ordinaire les serviettes hygiéniques lavables se trouve avec les serviettes à usage unique et comment les utiliser. Donc, cela demande parfois un appui conseil. Et le plus souvent, nous utilisons nos animatrices qui ont une certaine expertise dans les domaines, qui donnent des conseils, qui orientent les bénéficiaires par rapport vraiment à cela.
D'accord. Et est-ce qu'un mauvais entretien durant cette période a des conséquences sur la santé?
Et bien sûr. Une mauvaise hygiène pendant cette période donc, peut avoir un impact sur la santé sexuelle et reproductive. Donc, je vais parler des infections. Lorsque les serviettes ne sont pas changées à temps, lorsque les serviettes qui sont utilisées ne sont pas utilisées à bon escient, cela peut provoquer des infections génitales chez la femme. Donc, toutes choses qui vont encore aggraver la pauvreté de ces femmes-là, puisque qui parle d'infection génitale va parler des soins gynécologiques.
D'accord. Mais le temps de changer les serviettes doivent être changées en combien de temps?
Il est conseillé de les faire à chaque 6 heures de temps. Donc, je dirais trois fois, au moins, trois fois par jour. Et cela dépend également des femmes. Quand c'est abondant, il va dire que vraiment qu'elles ont changé.
D'accord. Donc, vous êtes une ONG qui œuvre dans ce sens sur les sites des déplacés, mais quelles sont les activités que vous avez posées dans ce sens pour aider ces femmes?
Nous travaillons dans un programme plus global concernant les droits et le bien-être de ces femmes-là. Nous avons travaillé sur l'accès à la sécurité alimentaire. Donc, nous donnons des kits alimentaires à ces femmes. Et pendant les périodes de fête, nous assistons les femmes et les enfants. Nous sensibilisons sur les violences basées sur les genres. Et nous leur montrons les chemins des One Stop Center. Donc, en cas de violences basées sur les genres, en cas de violences sexuelles et sexistes. Donc, et pendant ce temps aussi, nous sensibilisons les femmes sur la santé de la reproduction, comment avoir une bonne santé de la reproduction. Et bien sûr, une bonne hygiène menstruelle, la tenue d'une bonne hygiène menstruelle fait partie vraiment du paquet de santé de la reproduction à travers les causeries sur les règles. Pourquoi les règles? Comment viennent les règles? Et quand elles viennent? Et comment il faut se rendre propre? Donc, nos agents communiquent avec la communauté des personnes déplacées internes sur ces sujets-là. Et aussi, nous mettons à leur disposition des kits d'hygiène. Donc, dans ces kits-là, il y a les serviettes hygiéniques lavables, il y a de l'eau, il y a du savon, il y a de l'eau de javel. Tout ça pour rendre les toilettes, l'environnement vraiment propre. Et à vivre sainement cette période-là.
Et le magazine qui vient juste de passer, vous avez également dit que vous avez des difficultés avec les hommes qui ont du mal à comprendre ce que vous faites. Si vous pouvez nous expliquer un peu ces difficultés, qu'est-ce que ces hommes vous disent, comment est-ce qu'ils vous accueillent?
Oui, au départ, j'avoue qu'il y avait l'incompréhension que je comprends parfaitement. Une personne étrangère qui est là et qui parle à vos épouses, à vos sœurs, qui parle d'hygiène menstruelle. Des fois, on n'est pas content, on est choqué. On a ce désir de pouvoir protéger vraiment les siennes contre autrui. Mais avec la communication, donc nous avons adapté notre stratégie de communication à l'humeur des hommes. Il y a les responsables des sites qu'on a abordés, qu'on a expliqués, et vraiment qui nous a aidés aussi à faire comprendre les objectifs du projet. Et nous avons même incité les hommes à participer aux causeries en ce qui concerne l'hygiène menstruelle. Et avec la disposition des kits d'hygiène, donc la communauté, par là les hommes ont compris que nous voulons le bien-être des femmes et des communautés qui vivent sur les sites. Et bien évidemment, la disposition des kits alimentaires et autres activités liées à notre projet, liées à cela, nous a permis d'être de plus en plus acceptés par les hommes au sein de la communauté des déplacés.
Donc, arriver à se faire accepter par les hommes au sein de la communauté pour justement le bien-être des femmes. Merci, Monsieur Ballot, pour ces premières réponses. Mais vous restez avec nous pour la suite. Vous le savez, auditeurs, auditrices, cette émission, c'est également des rubriques. Et pour ce week-end, nous allons avec le modèle des réussites. Si le Mali compte des milliers de réfugiés, notamment dans des pays voisins, il abrite aussi un nombre important de réfugiés venant d'autres pays. Ceux-ci seraient près de 120 000 aujourd'hui sur le sol malien, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Certains sont arrivés depuis plus de 30 ans, d'autres par contre sont arrivés suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans la région. Presque tous se sont bien intégrés dans leur localité d'accueil. Notre reporter Mamadou Samasekou nous fait découvrir quelques cas d'intégration réussie des réfugiés au Mali. Un reportage est réalisé avec le concours des correspondants locaux.
À Bankass, dans le centre du pays, localité limitrophe du Burkina Faso, se trouvent des dizaines de réfugiés venus de ce pays en fuyant l'insécurité. Ces deux femmes qui ont requis l'anonymat ont accepté de parler de leur intégration dans la localité.
On s'est réjouis d'avoir été bien accueillis, hébergés et nourris. Maintenant qu'on est intégrés, il s'agit pour nous d'être autonomes. C'est ainsi qu'on a commencé à exercer le commerce de condiments. Cela nous a permis de nous prendre en charge et d'assurer les frais de scolarité de nos enfants.
Dans le nord du pays, surtout à Gao, les réfugiés nigériens sont parmi les mieux intégrés selon des habitants. Ils y exercent plusieurs métiers. Et c'est sous anonymat qu'un d'entre eux a parlé de sa relation avec sa communauté d'accueil.
Nous, les réfugiés nigériens, ne cesserons jamais de remercier le HCR, le gouvernement malien et la population de Gao. Grâce à leur implication, on se sent vraiment chez nous. Nos femmes se débrouillent dans le maraîchage. La plupart d'entre nous, les hommes, exercent des petits métiers. Je gagne ma vie dans la menuiserie métallique.
Kindo Alassane est un ressortissant burkinabé établi à Kouri, ville malienne frontalière du Burkina Faso, depuis des années. Il explique que c'est à cause de l'insécurité dans sa région qu'il s'est réfugié avec sa famille au Mali.
Je n'ai aucun problème à Kouri ici. J'ai fait de l'élevage des bovins et des ovins. Leur embouche me permet de les revendre sur les marchés de Bamako et Dakar. Cela m'a permis de construire ma maison et de bien m'installer avec ma famille. J'ai aujourd'hui obtenu la nationalité malienne et je paye mes impôts normalement.
Les régions de Kaï à l'ouest, de Banyagara au centre, ainsi que les régions du nord sont celles qui abritent le plus grand nombre de réfugiés au Mali. Certains sont là depuis des dizaines d'années, mais la plupart est arrivée suite à l'insécurité qui s'est instaurée dans ces pays ces dernières années. Mohamed Askia Touré, représentant de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés au Mali.
L'écrasante majorité de ces personnes-là sont des réfugiés qui viennent du Burkina Faso. Il y a près de 15 000 réfugiés mauritaniens qui sont dans la région de Kaï depuis 1989. À côté de cela, bien entendu, il y a des réfugiés nigériens, particulièrement dans la région de Liptako-Gourma jusqu'à Menaka. On a des milliers et des milliers de réfugiés nigériens. À côté de cela, il y a les réfugiés urbains. On dénombre pratiquement une dizaine de nationalités qui sont là sur des centres urbains tels que Bamako, tels que Sikasso, tels que Kaï.
L'intégration réussie de ces réfugiés s'explique par l'hospitalité des communautés d'accueil, mais aussi par l'assistance du Haut Commissariat pour les réfugiés.
Merci Mamadou Samasekou pour ce reportage, ainsi qu'à nos confrères de Gao, Yorosoué de Bankass, qui l'ont aidé pour la réalisation. De retour dans ce studio, M. Balou, par rapport à ces modèles de réussite, votre lecture, qu'est-ce que vous pensez?
Bon, tout d'abord, ce qui m'inspire d'abord, c'est la pensée qui consiste à dire sans paix, pas de développement. Donc également, ça me fait réfléchir par rapport à la culture malienne. Le Mali est un pays d'hospitalité, un pays d'accueil, un pays d'amour où l'étranger est toujours le bienvenu. Donc je salue le Haut Conseil des Nations Unies pour les réfugiés et le gouvernement malien qui ont également tout mis en œuvre pour que les vivre ensemble puissent être vraiment une réalité entre les communautés d'accueil et les réfugiés. Et cela, ça se voit à travers les témoignages de ces réfugiés, donc venus des pays voisins et qui se sentent comme chez eux.
Merci à vous, M. Balou. Merci également aux auditeurs et auditrices. Nous vous rappelons que vous suivez Studio Tamani à travers nos radios partenaires et sur nos différentes plateformes digitales. Aussi, vous pouvez réagir à toutes nos productions via notre page Facebook et notre compte X. Nous allons poursuivre cette émission avec le second magazine. Il parle cette fois-ci de la santé des femmes enceintes sur les sites des déplacés. Et ces femmes déplacées font-elles normalement les consultations prénatales lorsqu'elles sont en état de grossesse? Disposent-elles de centres de santé pour cela? La réponse à ces questions diffère d'un site à un autre. Sur certains sites, les déplacés affirment bénéficier d'un suivi normal de leur grossesse grâce à l'appui des autorités et leurs partenaires. Dans d'autres cas, le constat est tout autre. Suivant ce reportage de notre reporter Aïssata Diarra avec la collaboration de notre correspondant de Mopti, l'élément est rendu ici par Julie Colette Koulibaly.
Aïssata Gadjaga est une femme déplacée en état de grossesse sur le site de Sévaré Sokoura à Mopti. Selon elle, c'est difficile pour les femmes enceintes d'avoir les moyens pour les consultations prénatales.
Ici, la prise en charge des femmes est assurée par les époux eux-mêmes, malgré leurs maigres ressources. Les consultations se font à Sokoura avec le peu d'argent qu'ils nous donnent. Vu la distance, ce n'est vraiment pas facile. Des cas d'urgence de santé au cours de la journée sont gérables. Mais imaginez que de tels cas surviennent tard la nuit. Que Dieu nous en garde. Ça risque d'être très compliqué. C'est pourquoi notre souhait le plus ardent est que le centre de santé dédié à nous les déplacés soit à nouveau fonctionnel sur le site.
Inuru Diko est aussi une déplacée enceinte sur le site des déplacés à Faladje. Contrairement à la première, elle affirme que le développement social et des ONG accompagnent les femmes tout au long de la période de grossesse.
Nous avons été accompagnés par la Croix-Rouge au centre de santé à Sakoufa. En leur présence, toutes les consultations ont été faites, pesage, radiologie et prise de médicaments. Et c'est eux qui assurent toutes les dépenses. Cela ne traîne pas du tout, surtout si nous sommes accompagnés par nos maris. Si nous, les femmes, sentons des malaises, nous le signalons à nos maris. Ceux-ci font venir la Croix-Rouge pour nous accompagner au centre de santé.
Ces propos sont soutenus par Mme Maïga Mariam Niagali du développement social et gestionnaire au site des déplacés de Faladje. Suivre régulièrement les consultations prénatales, prendre correctement les médicaments prescrits, dormir sous les moustiquaires imprégnés et surtout maintenir l'hygiène corporelle sont entre autres les conseils prodigués par le développement social en faveur des femmes enceintes déplacées.
Tout d'abord, nous faisons des séances de sensibilisation pour qu'elles participent aux séances de CPN régulièrement. Surtout aussi, on les oriente vers les partenaires qui interviennent dans le domaine de la santé. Au début, il y avait des difficultés parce que déjà, dans leur lieu d'origine, elles fréquentaient pas régulièrement les centres de santé. Non, mais actuellement, ça commence à aller. Il y a des ONG qui se déplacent, qui viennent faire la CPN. Donc déjà, ça, c'est un atout.
Au-delà de ces appuis, des chefs de famille affirment rester au chevet de leurs épouses pendant la période de grossesse. Amadou Tamboura, chef de famille sur le site des déplacés de Faladje, en est un exemple. Selon lui, si c'était difficile au début de persuader les femmes, présentement, elles commencent à comprendre l'importance de faire les CPN.
Lorsque les femmes tombent enceintes, nous faisons tout notre possible pour qu'elles aillent à l'hôpital pour les CPN. Certaines sont constantes, d'autres non. Il y a même des femmes qui refusent d'être consultées par un médecin homme. Mais avec les sensibilisations actuellement, elles comprennent. C'est très important, car les consultations permettent de savoir si l'enfant est en bonne santé ou non.
Nia Fati Kone, infirmière au service d'aide mobile d'urgence SAMU Social, confirme ses propos. En collaboration avec Asakofa à Faladje, en commune 6 du district de Bamako, elle affirme qu'environ une quarantaine de femmes déplacées.
On fait les prises en charge des dames qui sont en état. Mais en premier lieu, on leur fait d'abord les sensibilisations parce que là où ils avaient quitté, ils ne faisaient pas ça. Parce qu'on avait eu un cas ici d'une jeune dame qui refusait d'aller faire les consultations prénatales. Donc deux jours même après, elle a perdu l'enfant. Donc beaucoup ont compris l'importance de faire les CPN. D'autres commençaient à venir nous demander de l'aide. Donc on les accompagne souvent au niveau de Asakofa pour faire leur prise en charge. On paye tout.
Ces consultations ont beaucoup d'avantages pour la mère et l'enfant, ajoute Nia Fati Kone, infirmière au service d'aide mobile d'urgence au SAMU social.
Les gens qui ont les tensions, soit les taux de glycémie, et puis il y a d'autres aussi, ils sont en manque de sang. Si tu pars faire les consultations prénatales, il est probable de ne pas mettre au monde un enfant mal formé. Parce que quand tu vas faire l'écho, on saura quel genre d'enfant tu es en train de porter dans ton ventre. Si ton taux peut supporter l'accouchement, tout ça, il y a vraiment beaucoup d'avantages vraiment à faire les consultations prénatales pour une femme ainsi que le bébé.
L'infirmière invite les femmes déplacées qui hésitent encore à venir faire les consultations prénatales car, dit-elle, cela peut diminuer le taux de mortalité mère-enfant dans le pays.
Pour ceux qui viennent de nous capter, vous suivez l'émission humanitaire de Studio Tamani Faboudirène depuis la maison de la presse à Bamako. On se tourne vers notre invité, M. Balo. Vous venez de suivre un élément sur la santé des femmes enceintes sur les sites déplacés. Est-ce que, durant vos activités sur ces sites, vous avez eu à faire face à des cas similaires?
Merci. J'ai pu constater des visites, la présence d'autres partenaires. On a parlé du SAMI social, la Croix-Rouge, du service du développement social, que j'ai salué par là. En l'occurrence, Mariam Niangali, avec qui nous avons beaucoup collaboré pour pouvoir mettre en œuvre notre projet. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'à travers les services de développement social, il y a une coordination de l'ensemble des activités, de tous les partenaires qui offrent les services, qui offrent des prestations au niveau des sites des déplacés. Donc, moi, on a mis ensemble, j'ai participé à des réunions de coordination. C'est-à-dire, il y a des partenaires divers qui ont des interventions diversifiées et variées. Donc, nous ne sommes pas amenés à faire la même chose, mais nous sommes amenés, on a un intérêt commun, le bien-être des personnes qui sont déplacées, en fait. Donc, à travers cette unité de coordination, j'ai pu également constater que des acteurs sont à pied dehors pour le bien-être de la mère et de l'enfant sur les sites. Puisque, par exemple, sur les sites des Faladiers, il y a le SAMI social et la Croix-Rouge qui ont des véhicules. Donc, qui amènent, en tout cas, certains jours spécifiques dans la semaine, les femmes enceintes pour se faire consulter. Donc, dans un centre de soins. Et en retour, les soins liés à la mère et à l'enfant sont carrément pris en charge par ces structures-là. Donc, ce que moi, je veux dire également, donc, il y a une personne qui a évoqué les cas d'urgence pendant des heures induites. Car on met en place un mécanisme. Donc, lorsque un problème est déclenché la nuit, donc le mécanisme est mis de telle sorte que ça puisse se déclencher rapidement jusqu'au centre de santé le plus proche.
Donc, AMSOT opère dans plusieurs régions au Mali, mais sur les sites des déplacés que vous avez visités, est-ce qu'ils sont dotés de plateaux sanitaires adéquats pour répondre aux différents besoins des femmes?
Bon, sur les sites que j'ai déplacés, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de structure de santé. Mais il y a une collaboration franche entre l'État, les services de développement social et les structures de santé les plus proches. Également, les partenaires qui accompagnent le développement social sur ces sites-là sont également impliqués pour rapprocher plus les services de santé des communautés. Voilà. Donc, en cas de besoin donc, d'urgence sur le plan médical, automatiquement, la réponse est apportée.
Merci, M. Ballo, pour toutes ces réponses. Et nous allons maintenant partir avec la rubrique Artiste de la semaine. Un tour au plateau d'Ogon, précisément à Badiangara, où notre correspondant Adama Djigiba est allé à la rencontre d'un jeune musicien. Il se nomme Ambobou Dounion, un jeune très sollicité à Badiangara pour les cérémonies et autres manifestations. Suivons ensemble.
Sayoulé Amawe yule jere, sayu. Amawe yule jere, sayu le jere, yule kintan le jere, sayu le jere, yule amagen le jere, sayu. Amawe yule jere.
Bonsoir amis auditeurs et auditrices de Sidio Tamani. Vous êtes à l'écoute de l'émission humanitaire. Ce soir, nous sommes avec un artiste local de la cité de Nangamandu Tembeli de Badiangara. Monsieur, nom et prénom.
Bonjour, bonsoir tout le monde. Donc moi, je me nomme Amaobu Dion. Je suis un artiste compositeur, chanteur de la cité Nangamandu de Badiangara. Bonsoir à tout le monde.
Monsieur Dounion, vous êtes dans la musique depuis combien d'années?
Bon, par rapport à la musique, je peux dire que j'ai grandi avec cela. C'est depuis l'enfance. Ma grand-mère paternelle était une chanteuse très reconnue de son village. Donc mon papa aussi, c'est un passeur en même temps, c'était un amoureux de la musique. Donc je peux dire que j'ai trouvé un peu ça dans la famille. Je suis grandi avec cela, mais je me suis investi corps et âme dans la musique. Ça, c'était en année 2020. Depuis cette année, je suis en train de faire des compositions, donc des lancements, des singles et tout.
Et tu fais quel genre de musique?
Par rapport à ça, on peut dire qu'on touche un peu à tout. Voilà, du genre traditionnel, on le fait, du genre classique, moderne. Donc, on fait un peu de genre. Ça dépend souvent de l'inspiration. Donc, c'est qu'on est inspiré selon les circonstances, les situations. Donc, selon l'inspiration, on fait sortir.
Ok. Dans tes chansons, tu parles de quoi généralement?
Par rapport aux chants que nous composons, plus général, nous, on parle de l'unité. Donc, dans notre différence, comment nous pouvons vivre ensemble. Donc, dans notre différence religieuse, notre différence ethnique. Donc, sur tous les plans, si nous regardons, nous n'avons pas la même éducation, nous n'avons pas les mêmes notions de base de la vie. Chacun est différent de l'autre. Mais dans cette différence, comment nous pouvons être unis? C'est en ce sens que nous composons les sons.
Je vous rappelle que nous sommes avec Mbobou Dougnon, il est musicien ici au niveau donc, de Badiangara. Alors, comment se passe la musique aujourd'hui? Est-ce que ça répond à tes aspirations?
Oui, on peut dire en partie. C'est-à-dire maintenant, la situation que nous vivons, c'est une situation qui fait appel surtout à l'unité, à la cohésion sociale, à la paix. Donc, on peut dire que ça répond à ça parce que si on parle de l'unité, on parle de la cohésion sociale, on parle de vivre ensemble, on parle en fait de la paix. Donc sans cohésion sociale, sans paix, on ne peut pas être unis. Je peux dire que cela peut répondre à ce que nous composons dans les chants.
Ok. Est-ce que vous vous en sortez dans des conditions difficiles que nous vivons, que nous traversons aujourd'hui? Parlons de la situation d'insécurité.
Parlant de ça... Bon, on peut dire qu'il y a vraiment des difficultés dans le milieu des artistes. Parce qu'avec cette situation insécuritaire, on n'arrive pas à faire les événements comme on le souhaite. Un artiste, c'est les événements, c'est les concerts. Pour organiser ça, donc on trouve quelque chose à travers ça. Donc cela aide non seulement nous-mêmes personnellement, mais aussi cela nous pousse à faire des activités avec ce que nous gagnons. Donc si nous n'arrivons pas à faire ces événements, en ce moment, c'est comme un blocage, nous ne pouvons pas avancer. Vraiment, la situation sécuritaire fait qu'il n'y a pas beaucoup d'activités.
Parlant d'insécurité, il y a assez de déplacés internes ici à Badiangara. Alors, quelle lecture fais-tu de cette situation?
Oui, effectivement. Bon, ce que nous souhaitons pour les déplacés, vraiment, ce n'est pas facile, c'est difficile. Quitter son village, quitter son lieu de provenance, venir dans un lieu inconnu, donc s'installer, vraiment c'est difficile. Ce que nous souhaitons pour eux, c'est la paix, que la guerre puisse prendre fin. Ce que nous vivons ici, vraiment nous voulons que cela finisse. Et très rapidement, afin que la paix puisse revenir, et ceux qui ont fait des déplacements puissent encore repartir dans leur zone. Voilà notre souhait.
Peux-tu nous faire un petit a cappella, Mbobou Dougnon? On peut aussi savourer un peu de votre musique.
Aïe ben kadi, aïe ben kadi, aïe ben kadi, aïe ben kadi sa, aïe ben chogoro baou, aïe ben. Aye ben muso koroba u aye ben ben kadi aye ben kadi sa.
Tout part de la paix et rien ne vaut la paix. La musique, Monsieur Balo, est-ce que vous aimez déjà la musique?
Beaucoup la musique, surtout la musique malienne.
Est-ce que ça joue un rôle sur la santé, comme vous évoluez aussi dans
la ce culture sens? Est un élément essentiel pour notre développement. L'artiste a tout dit. Uni dans la paix, unis dans la diversité, l'union dans la diversité. Donc, quel en soit Peul, Dogon, quel en soit Mianka, Senoufo, Kasunki, donc nous sommes tous des Maliens. Nous devons nous entendre, nous devons être unis, s'entendre malgré nos différences culturelles et des religions.
Et nous profitons pour passer un petit coucou à nos cousins Dogon. Nous allons à présent partir avec la dernière rubrique, le proverbe de la semaine.
Tout ne se résume pas à tout, mais tout n'est pas fortuit. Ce proverbe signifie qu'il ne faudrait pas avoir peur de tout, avoir des appréhensions dans toutes les situations et en toutes circonstances, souvent pour des raisons que l'on n'a même pas encore vues. Tout n'est pas forcément lié.
Mais attention, les choses arrivent aussi souvent pour une raison. C'est pour cela
qu'il faut être vigilant avec ce que nous disons et ce que nous faisons. Être sceptique constamment peut également nous conduire à des situations regrettables. Donc, sachons faire la part des choses et ne soyons pas dans la démesure ou encore l'extrême.
Notre invité va également nous donner son avis sur ce proverbe.
Oui, je suis d'accord avec l'auteur. Je pense que c'est sage. On ne peut pas être toujours sceptique. Il y a un certain moment donné, il faut être lucide dans cette analyse. Et ne pas croire en tout et ne pas douter non plus de tout.
D'accord, savoir en un mot faire la part des choses. Voilà. Et ainsi se referme donc cette émission Faboudiren. Nous vous rappelons que nous étions avec M. Brahima Balo, chargé de programme de l'Association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles. Merci pour votre disponibilité.
Merci, madame.
Et si vous ne l'avez pas suivi en intégralité, cette émission, vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes digitales de Studio Tamani. Nous vous rappelons aussi que certaines de nos productions sont disponibles sur notre groupe WhatsApp. Pour y accéder, enregistrez le numéro suivant, 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp. Je suis Adama Amadou Haïdara, Philippe Dambélé était à la technique. Bon début de semaine à tous.